Russie, meurtre politique, agression de militants, les mœurs du pouvoir sur fond de crise. Le 17 novembre s'est ouvert à Moscou le procès d'individus présentés comme ayant partie liée avec l'assassinat il y a 2 ans d'Anna Politkovskaya, une journaliste qui n'avait pas accès à la presse grand public, mais que ses reportages sur la guerre de Tchétchénie et ses enquêtes sur les turpitudes du régime avaient en quelque sorte condamné à mort. Sous prétexte qu'un des accusés a travaillé pour les services secrets, et pas comme sous-fifre, mais avec le grade de lieutenant-colonel, un cas presque banal pour un crime en Russie, c'est un tribunal militaire qui jugera, et nul n'en doute, étouffera l'affaire. Des fois qu'elle n'ait pas été assez enterrée en haut lieu par ceux qui ont inspiré ce crime ou par ceux qui la couvrent. Car s'il y a 4 accusés, les enquêteurs ont déjà annoncé qu'ils n'avaient identifié ni l'exécutant ni le commanditaire du meurtre. Ils savent bien ce qu'ils risqueraient à pousser leurs investigations trop avant. D'ailleurs, le jour même où s'ouvrait cette parodie de procès, la presse française rapportait certaines des méthodes d'intimidation qui ont cours en Russie à l'encontre de ceux qui ont le tort de ne pas filer assez doux aux yeux des autorités. L'occasion en a été fournie par la 3e agression qu'a subie en 2 semaines une Française, Karine Clément, qui travaille en Russie depuis des années comme sociologue des mouvements sociaux. Les méthodes des polices privées, ou non. Coups, insultes, et pour finir, une seringue plantée dans le corps avec injection d'un liquide indéterminé. Il faut croire qu'avoir participé à l'organisation le 24 octobre d'une journée nationale de protestation pour la défense des droits sociaux et animé l'Institut de l'action collective, qui se fait écho de mouvements syndicaux, de défense des locataires, ne lui ont pas fait que des amis dans les allées du pouvoir. Ou, mais cela revient au même, du côté des officines publiques ou privées qui défendent, par des moyens de gangsters, les intérêts de dirigeants d'entreprises, de promoteurs véreux, de membres des pouvoirs publics pour lesquels la population ne devrait avoir qu'un seul droit, celui de supporter leurs exactions en se taisant. Que Karine Clément ait été agressée en pleine journée et en public dit bien que de tels hommes de main savent ne rien risquer de la police, une des branches à laquelle ils appartiennent souvent, et qu'ils se sentent assurés de leur totale impunité. C'est d'autant plus évident dans ce cas que leur victime aurait pu se croire relativement protégée par son statut de collaboratrice de l'Académie des sciences de Russie, de ressortissante française et d'épouse d'un député russe qui, s'il fut un des fondateurs du mouvement syndical dit indépendant, s'est ensuite rapproché de la mouvance pro-Poutine. Une répression quasi systématique dans les entreprises. Mais pour un cas dont, heureusement, la presse occidentale parle un peu, il y en a des dizaines dont nul ne parle. Il semble faire partie de la routine des exactions de la police, des gardes des entreprises, souvent recrutés parmi la pègre, des voyous chargés de rosser des locataires récalcitrants et plus généralement toutes sortes d'empêcheurs de profiter en rond. Parmi les cas récents les plus dramatiques, il y a eu à la mi-octobre, à Togliatti, Russie centrale, celui de syndicalistes du géant automobile russe Avtovaz, sauvagement agressé après avoir été licencié pour fait de grève. Un journaliste local qui les accompagnait a également été frappé. Ces dernières années, avec l'apparition d'un mouvement syndical non directement inféodé au Kremlin, les directions des entreprises se sentant visées ont eu de plus en plus recours à de telles méthodes pour briser la forte tête, au propre comme au figuré. Quand le fait de licencier, ce qui est quasi systématique, celui ou celle qui tente de monter un syndicat indépendant ne suffit pas, les intimidations se font plus musclées. Depuis l'intervention des tribunaux et de la police contre ces travailleurs, jusqu'à leur passage à tabac dans la rue, voire à domicile. Sur fond de grève et de crise. Il est probable qu'avec le développement de la crise, les autorités et les employeurs veuillent intensifier tout ce qui pourrait intimider la population et les travailleurs en particulier. Cela d'autant plus que le nombre de grèves ne diminue apparemment pas. Aux 4 coins du pays, des grèves éclatent pour obtenir des hausses de salaire ou, plus souvent car cette plaie est revenue en force avec la crise, pour le paiement de mois d'arriérés de salaire. Il y a aussi des mouvements et manifestations contre des mesures de chômage technique ou contre des licenciements massifs dans l'industrie de la pâte à papier, la métallurgie, l'automobile et, surtout, dans tout ce qui a trait aux bâtiments et à la construction. En effet, dans les grandes villes, de nombreux chantiers sont désormais arrêtés, faute de crédit, et même dans les beaux quartiers où habitent, entre guillemets, les nouveaux Russes, on voit se multiplier des panonceaux à vendre. Les autorités savent que la crise va toucher de plus en plus durement les couches populaires. Et bien sûr, elles vont chercher encore plus qu'avant à intimider préventivement tous ceux qui ne veulent pas se laisser faire. Mais rien ne dit que cela suffira si, ce que relèvent depuis des semaines les enquêtes d'opinion publique, se développe le mécontentement de la population, provoqué par les milliards d'équivalents euros accordés par le pouvoir aux grands groupes pétroliers et autres. En tout cas, quand les salaires stagnent et les licenciements se multiplient, ce mécontentement pourrait bien prendre un tour offensif. Pierre Lafitte.